Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission du mercredi 18 novembre de 13h30 à 14h30 sur Divergence FM, bien sûr, 93.9, avec une rediffusion le même jour de 18h à 19h. Une émission très particulière aujourd'hui, Martin.
Oui, bonjour à tous.
Puisqu'elle sera moitié en direct, moitié enregistrée.
Voilà, une émission assez chaotique pour des problèmes...
De serrure. Ouais. On ne rentrera pas dans les détails, rien ne filtrera dans la presse, mais effectivement, des petits soucis. Alors, on va quand même essayer de développer un sommaire.
Voilà, alors nous serons que deux aujourd'hui, puisque Boris a été pris par le temps et a dû partir. Moi, je vous parlerai aujourd'hui un petit peu du dernier film de Terry Gilliam et je vous parlerai également de 2012.
Et moi, je parlerai d'un film qui s'appelle Les vies secrètes de Pip Ali, ou tout simplement Pip Ali, de Rebecca Miller. Et puis, on pourra écouter aussi, puisque c'est un peu particulier, une émission un peu chamboulée, on pourra écouter un montage que j'avais fait avec Denis Lavant, un montage que j'apprécie énormément, qui retrace un peu la carrière cinématographique de Denis Lavant. Et on écoutera aussi une interview d'Émilie Loiseau, qui est une chanteuse. Qui est bien reconnu théoriquement et qui a aussi participé à la BO du film King Guillaume notamment, et puis qui avait une mamie qui a joué dans le film d'Hitchcock Les 39 marches entre autres. Voilà, c'est Cinérama.
Donc pour commencer, les petits amis, j'ai une assez mauvaise nouvelle à vous apprendre. Alors, on m'a chargé de vous annoncer ça de but en blanc, sans trop m'étendre sur l'aspect technique, sachant que j'ai tendance d'habitude à être un peu trop pointilleux dans mes chroniques. Et vu qu'on m'a dit que mon intervention passionnante sur l'histoire du zoétrope et de ses dérivés de 1873 à nos jours avait été un des records négatifs d'audience pour Divergence FM en 2007, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Alors voilà, comme le sait toute personne saine d'esprit qui n'a pas passé les 10 dernières années dans un caisson étanche en orbite autour de Titan, le calendrier de la civilisation Maya s'arrête le 21 décembre 2012, ce qui va entraîner une gigantesque éruption solaire, un alignement parfait de toutes les planètes, une inversion du champ magnétique terrestre, un bouleversement total de la tectonique des plaques et la mort d'environ 7 milliards d'êtres humains sans compter les hamsters. Voilà, donc pour être vraiment franc avec vous, vous n'aurez aucun cadeau de Noël le 25 décembre 2012. Voilà, c'est dit. Il vous reste donc 1128 jours et quelques heures pour régler vos petites affaires, vous prendre un maximum de cuite au champagne, faire tout ce que vous vous étiez promis de faire une fois que vous auriez le temps et que vous n'auriez plus rien à perdre, et aussi revoir une dernière fois Le Mépris de Jean-Luc Godard, et peut-être un Terry Gilliam aussi si vous avez le temps. Alors face à l'imminence de ce drame inéluctable, et après avoir clamé la vérité depuis des années dans chacun de ses films, sans que personne ne le prenne au sérieux, le réalisateur visionnaire Roland Emmerich vient de sortir un long métrage qui s'intitule sobrement 2012. Alors déjà l'année dernière, il avait débroussaillé un petit peu le terrain avec 10 000, donc un autre film qui avait lui aussi pour titre une date. Mais cette fois-ci, Emmerich a pris son courage à deux mains pour faire éclater la vérité à la face du monde. Donc le réalisateur, qu'on appelle dans le milieu le Cassandre d'Hollywood, prend donc 160 minutes pour nous emmener faire un tour du côté de la fin du monde. Alors rassurez-vous, il s'agit d'un film avec une histoire, avec des personnages incarnés par des comédiens, avec des effets spéciaux, une musique extra-diégétique, un film quoi, je précise, parce que j'en vois déjà dans le studio qui commence à empiler à la va-vite des boîtes de conserve et des micros dans des cartons, qui essayent de joindre leurs parents par téléphone. Donc je vous ai dit qu'il reste encore 1128 jours avant le 21 décembre 2012, donc largement le temps de parler du film. Alors 2012 de Roland Emmerich, c'est en quelque sorte le film catastrophe ultime. Donc le réalisateur nous entraîne dans un voyage sur des montagnes russes pendant lequel il va revisiter toute la cinématographie de la catastrophe. Donc de Tremblement de terre de Mark Robson au Pic de Dante de Jean de Bon, en passant par Le choc des mondes de Rudolf Maté ou encore Le Titanic de James Cameron. Et bien tout ce que le cinéma de genre propose comme prétexte de destruction massive, Emmerich va s'en emparer et nous offrir une compilation de tableaux apocalyptiques. Un best-of de cataclysme qui a dû laisser plutôt pantois Michael Bay et ses Transformers. Donc 2012 brille principalement pour ses qualités photographiques. Même si la majeure partie du résultat final a été accouchée par des ordinateurs, il faut saluer le travail qui a été abattu sur ces images spectaculaires, à mon avis sans équivalent dans le genre. Pour une fois, une bonne partie des centaines de millions de dollars de budget, donc 260 millions de dollars pour être précis, eh bien, pour une fois, c'est visible à l'écran, à travers la qualité de l'animation, à travers la finesse des textures et des particules, et le souci du détail dans les scènes de destruction. Personnellement, je n'avais jamais vu ça. 2012, c'est un vrai feu d'artifice de 2h40, dont chaque scène de bravoure procure un plaisir certainement régressif, mais qu'il serait dommage de bouder. Donc Roland Emmerich nous offre une petite visite touristique de l'apocalypse et le prix du billet vaut bien ce qu'on y découvre. Donc si vous aviez été frustré d'en voir si peu dans Le jour d'après, The Day After Tomorrow, eh bien lui aussi, il avait été frustré, donc il se rattrape en frappant plus fort, plus longtemps et plus méchamment. Donc un autre point fort de ce film, c'est la distance que pose Emmerich par rapport au drame personnel qu'il va mettre en scène pour nous plonger dans l'identification et dans l'émotion que son sujet ne manque pas de provoquer. Donc cette distance, qui va parfois jusqu'au cynisme, permet au réalisateur de faire redescendre ponctuellement la tension qu'il instaure sur la quasi-totalité de son long métrage. Donc le récit est une simple course en avant, semée d'embûches mortelles, et le spectateur de bonne volonté passe quand même une bonne heure et demie cramponné à ses accoudoirs. Alors les quelques scènes d'exposition et d'approfondissement des personnages ne viennent pas vraiment le détendre, puisque en général elles sont là pour annoncer que le pire reste encore à venir. Donc en étant conscient de la gravité générale de son histoire, Emmerich s'est permis quelques scènes qui relèvent plus du gag que d'autre chose. Par exemple, l'intervention du gouverneur Schwarzenegger à la télévision est un joli pied de nez et à une certaine partie de la population qui est prête à gober la moindre chose crachée par le Saint-Tube cathodique et également à tout un pan du cinéma d'action-aventure que l'ancien acteur incarne encore aujourd'hui. Donc la destruction de la chapelle Sixtine, la scène de ménage dans le supermarché ou le traitement de l'inévitable poncif avec la voiture qui ne démarre pas, sont de bons exemples d'un certain humour qui permettent aux spectateurs de souffler entre deux tsunamis. Donc finalement, le gros point faible de 2012, comme on pouvait s'y attendre, c'est son scénario et ses personnages. Donc 2012 reste un film catastrophe classique dans le sens où son intrigue se construit autour de personnages caricaturaux auxquels le spectateur peut s'identifier sans problème. Il se construit autour de péripéties prévisibles et de retournements de situation dignes d'un mauvais téléfilm. Donc le personnage campé par John Cusack passe la totalité du film à attraper son train à la toute dernière seconde, à aller fermer le gaz alors que le monde s'écroule autour de lui, et à répéter à ses enfants que tout va bien se passer. Bon, les autres personnages ont tous un petit air de déjà-vu sans foi, entre le hippie allumé qui connaît la vérité avant tout le monde, le politicien froid et calculateur, la jolie fille du président des États-Unis, le scientifique sympathique, le mafieux russe truculent et le moine tibétain zen. On a donc droit à un échantillon typiquement hollywoodien de la population terrestre. Reste quelques personnages assez étonnants, comme cet animateur de radio assez délirant, qui font penser à certaines personnes qui travaillent à Divergence, d'ailleurs. Un animateur radio campé par Woody Harrelson, très en forme. Alors le déroulement des événements ne nous réserve pas non plus énormément de surprises, même si, comme je l'ai dit, Emmerich arrive à maintenir son suspense et à nous tenir en haleine efficacement pendant 2h40. Et puis, il y a quand même quelque chose d'un peu too much dans la limpidité, dans l'aspect prévisible de ce scénario. Le formatage de l'histoire est un peu trop appuyé, pour être honnête. Il n'y a qu'à voir la ténacité que met le personnage principal à échapper à la mort à chaque fois à la dernière seconde, ou comment le réalisateur termine son film sur une réplique à propos de couche-culotte, pour se rendre compte que Emmerich n'est peut-être pas aussi dupe que ça face à la simplicité de son récit. Donc 2012 s'avère être plutôt une bonne surprise, un film qui n'a d'autre ambition que de nous proposer un fantastique spectacle visuel, qui parvient même à éviter un trop grand sérieux dans sa narration, et qui pose un certain nombre de questions sur la gestion des catastrophes naturelles,
et à plus fort titre sur la gestion éventuelle d'un cataclysme de cette ampleur. Voilà, comment les gouvernements prépareront 2012, où est-ce que vous serez à ce moment-là, voilà, est-ce que vous serez prévenu, et puis quoi faire d'ici là. Donc des questions que vous devriez vous poser dès aujourd'hui, hein, si vous ne voulez pas finir en rade sur le bord de la route quand les tremblements de terre commenceront. Alors d'ici là, eh bien, pour le coup, n'allez pas voir n'importe quoi, hein, vous n'avez plus beaucoup de temps.
Eh bien, merci. Hein. C'est 250 millions, c'est ça ?
260 millions.
260 millions. Et de dollars. J'ai du mal à me rendre compte si c'est un des plus gros budgets, peut-être pas.
Ça commence à faire.
Oui, ça commence à faire beaucoup.
Pas mal.
Hein,
mais comme je l'ai dit, ça se voit vraiment à l'écran. Quoi. Au niveau visuel, c'est. Enfin, moi, j'ai été bluffé. Je pense qu'on aura droit à un même genre de spectacle face au prochain Cameron. J'ai pas vu encore des images de Avatar donc en salle. Je sais qu'il y avait eu une projection, le Avatar Day, où 20 minutes ou plus du film avait été diffusé en salle. Et je pense qu'on va se retrouver devant un spectacle visuellement assez approchant à ce qu'on peut voir dans 2012. Mais là, c'est vraiment de la destruction massive. Il se fait plaisir comme un gamin à tout casser. Et c'est vrai que c'est assez jouissif, quoi.
Donc de l'argent plutôt bien employé, et c'est déjà pas mal. Donc on pouvait s'attendre à un gros blockbuster de plus, mais finalement, voilà.
Voilà, enfin, c'est un vrai divertissement. C'est un gros blockbuster de plus, mais un blockbuster réussi qui remplit son cahier des charges de pure distraction, de pur spectacle, d'attraction foraine. C'est vraiment, oui, des montagnes russes, et on sort un peu lessivé, avec presque un mal de crâne, à force d'avoir eu tant de choses. Mais non, je conseille ce film, ouais, à découvrir sur grand écran. Après, ça aura vraiment plus aucun sens sur un petit écran à la télévision ou en DVD.
Et oui, et il est déjà piraté sur Internet, j'ai vu ça. Je vous donne un élément, c'est aussi pour toi, Martin. C'est la critique du Canard Enchaîné. Il met 4 fusions nucléaires inédites, 2 points. L'énergie libérée par les éléments déchaînés permet de ressouder le noyau familial d'un couple divorcé en faisant gicler le beau-père.
Oui, c'est une assez bonne, un assez bon résumé du scénario. Mais bon, comme je l'ai dit, le scénario est vraiment basique. C'est vraiment des personnages qu'on a déjà vus, des situations qu'on a déjà vues. Voilà, la recomposition d'un couple divorcé, c'est déjà revu et revu. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a quand même cette petite distance là qui me fait me poser la question. Est-ce que ce serait pas quand même too much, quoi ? Est-ce que c'est tellement basique, c'est tellement... tellement Spielbergien ou Disneyien que bon, est-ce qu'il est vraiment dupe? Je sais pas. Moi, j'ai envie de lui laisser le doute et de penser qu'il l'a fait un petit peu exprès aussi.
En tout cas, c'est rassurant parce que c'est bien mieux que le très mauvais Independence Day.
Ça, c'est sûr. Il n'y a pas photo.
Et 2012 est projeté, eh bien, dans les cinémas multiplex un peu partout. Hein. C'est sans doute le film qui a le plus grand nombre de copies parmi les films qui sont sortis la semaine dernière. On va passer, eh bien, à Denis Lavant. Denis Lavant que j'avais rencontré, eh bien, c'était cette année, c'était au tout début du printemps. Alors pourquoi Denis Lavant ? Eh bien, parce qu'on est dans des conditions un peu spéciales aujourd'hui dans Cinérama. Pour tout un tas de raisons, on n'a pas pu faire un sommaire digne de ce nom. Donc c'est une rediffusion, mais une belle rediffusion d'un montage que j'apprécie. En fait, c'est l'acteur Denis Lavant avec des morceaux de films auxquels il a participé. Et on se retrouve après pour la chronique de Pipali, les vies privées de Pipali.
Bonjour, petit sphinx.
Je m'appelle Denis Lavant, je suis comédien.
Tu es où ?
À la mer.
Je suis de passage à Montpellier.
Oh, c'est bouillant ! Oh là là ! Oh, le trottoir, il est bouillant. Comme à New York, à midi, l'été. C'est incroyable !
Mais oui, t'as pas lu les journaux. C'est le passage de la comète de Halley. À 10 000 km de la Terre, cette nuit, qui provoque cette chaleur épouvantable. Ça va durer encore quelques jours.
La comète de Halley ? Allez.
Quelle relation vous avez avec Léos Carax ?
C'est compliqué, vous savez.
Qui peut m'apprendre à oublier ?
Je peux pas en parler en... Ça parce que c'est 3 films plus un moyen-métrage. C'est-à-dire, on s'est retrouvés... Après quasiment 20 ans, après Les Amants du Pont-Neuf, qui a été quand même une rude épreuve, parce que c'est un film qui a commencé de façon un peu catastrophique et qui a duré, qui était très âpre à faire, parce que bon, ça parlait du milieu de la rue, quoi. C'est un type de Alex qui est un cracheur de feu. Et j'ai pas mal plongé dans ce tournage et dans ce personnage.
Il y a un petit hôtel près d'ici. Il s'appelle Louisiane, comme ton chat. Je me suis renseigné. Ils servent le petit déjeuner au lit, c'est compris dans le prix.
Amour, je dois rentrer.
Où ça ?
Crie pas, je te raconterai.
Quoi ?
Crie pas. Il y a des choses que j'ai laissées pourrir, des choses qui mettent du temps, des choses. M'oblige pas à dire, pas ce soir.
Tu.
Alex, il va falloir que tu sois patient avec moi.
Ah non. Mensonge. Mensonge.
Donc c'est une aventure qui a duré 3 ans, que je ne regrette pas du tout, mais qui est vraiment une étape dans ma vie. Et on s'est retrouvé donc avec Léos l'an passé, à Tokyo d'ailleurs, parce qu'il avait tourné un autre long métrage sans moi, avec Guillaume Depardieu, qui hélas nous a quittés récemment, qui s'appelle Paula X, le film. Et il n'avait pas tourné depuis. C'est-à-dire en France, il n'a pas beaucoup l'opportunité de tourner. Il n'y a pas de producteur inspiré qui font confiance en son art. Et c'est des Japonais qui lui ont proposé de participer à un triptyque qui s'appelle Tokyo, avec un film de Michel Gondry, un film de Léo, c'est un film d'un Coréen qui s'appelle Bong Joon-ho. Le tout s'appelle Tokyo, et on a inventé un personnage qui m'a éclaté, qui s'appelle Merde, qui est une totale composition, quoi. C'est une sorte de barbu roux avec un œil aveugle, blanc, avec des ongles très longs et qui se balade comme ça, pieds nus, qui sort des égouts, qui se balade dans les rues de Tokyo et qui fout le bordel et qui parle un langage inventé qui s'appelle le merdogon. Donc qu'on a forgé avec Léo, soit moi que j'ai parlé, qu'il a inventé, et avec Jean-François Balmet aussi qui participe au film, qui fait mon avocat, lui aussi parle merdogon. Qui donne oui, là il propose tonnette.
Léos Carax a dit qu'il y aurait un merde 2, hein, il l'annonce à la fin de ce moyen métrage, ouais. mais est-ce que ça a été évident du coup? Est-ce qu'il a tout de suite pensé à vous pour le merde 1?
Pour ne pas vous répondre à sa place, je pense qu'il s'est adressé tout de suite à moi pour ce personnage, et pour moi c'était aussi une évidence, ce personnage, presque plus que les autres personnages, les personnages d'Alex, en fait les trois Alex qui sont dans Boy Meets Girl, Mauvais Sang et Les Amants du Pont Neuf. Et je sais pas, il y avait quelque chose pour moi qui était j'ai appréhendé beaucoup le tournage avec le souvenir du dernier tournage qu'on avait fait ensemble, et en fait
qui s'est terminé d'ailleurs dans la région ici.
Oui, on a tourné à Lansargue, le décor du Pont Neuf, et en 90, début 91, on a tourné. Automne 90, on a tourné à Lansargue, donc pas loin d'ici.
Non, jamais, faut pas revenir ici.
Mais tu me manques.
Non, j'ai trop de choses à réparer encore là-dedans. Je suis pas prêt. Je veux que tu me découvres d'un coup.
Un autre homme.
À ma sortie.
Je serai là.
Dans 6 mois à Noël.
Je sais, je serai là.
Alors, rendez-vous à minuit sur le pont.
Ce qui était très positif pour moi avec Tokyo, c'est autant justement sur le décor qui était planté à Lansargue, il y avait moyen de travailler comme en studio en plein air, et donc de prendre beaucoup de temps, de répéter beaucoup de fois les scènes, de peaufiner, de perfectionner, d'aller chercher. Il y a toujours moyen d'améliorer une scène, d'aller chercher plus profondément, et aussi dans l'esthétique, dans l'éclairage, dans le jeu, etc. Et pour Tokyo, ça va être bien, bon, la maturité aidant, c'est-à-dire on s'est rencontrés de façon plus équitable, je dirais, plus calme, aussi plus paisible, en communiquant davantage que sur les autres films. Et c'est un film, on ne pouvait pas tourner 36 fois les scènes, parce qu'on a tourné dans Tokyo, dans la rue. Et dans Tokyo, il y a cette particularité-là qu'il n'y a pas le droit de tourner dans la rue, comme à Paris, comme d'autres villes en France, où on peut avoir des autorisations. Là, c'est niette. C'est-à-dire qu'on tourne, Mais c'est jusqu'à temps qu'un Japonais dise aux flics, il y a des gens qui tournent, ou si ça dérange quelqu'un, arrête tournage. Et donc, il y a des scènes, on pouvait les faire une fois, quoi. Il fallait être tout de suite prêt, puis les faire comme du théâtre de rue un petit peu. C'est-à-dire, moi j'ai retrouvé aussi ma dynamique d'origine dans ce film. Non seulement dans la composition du personnage, dans la gestuelle aussi, mais aussi dans le fait d'être tout de suite là et dans la rapidité, la furtivité de l'action.
Parce que c'est comme ça que Léo Scarax vous a rencontré, en fait. Vous étiez artiste de rue?
Non, il m'a rencontré un peu plus tard. J'ai commencé en Belgique avec une troupe qui s'appelle les Baladins du Miroir. Fin des années 70, quoi, 78-79. Puis j'ai pratiqué beaucoup ça au départ, un peu les arts du cirque, sans avoir jamais fait vraiment de piste, mais le jonglage, l'acrobatie, le monocycle, des choses comme ça, quoi. La comédia dell'arte, c'est un peu ma formation de base. Mais quand Léo Scarax m'a rencontré, je commençais déjà à travailler dans les théâtres, subventionné à Paris ou ailleurs, quoi. Je commençais à avoir des rôles, à jouer des personnages. Et le cinéma, je ne m'en étais jamais vraiment approché, sauf peut-être un court-métrage ou une petite apparition dans un film. Mais je n'avais pas forcément d'attirance particulière pour ce métier, parce que mon métier, pour moi, c'est quand même le direct au départ, c'est la scène. C'est ce qui se passe de façon éphémère et en direct, en relation avec le public. Et donc c'est vraiment Léo qui m'a fait faire mes premiers pas dans le cinéma. Donc c'est au début des années 80, c'était en 82-83, Boy Meets Girl.
Tu tombes souvent amoureux?
Oui, facilement.
Je pensais.
Mais pour être un amant sérieux, il faut être là. Moi, je suis bien plus avec les gens quand je les quitte. Tout ça, c'est très vieux, l'amour, je veux dire. Les amoureux sont crevés. Le désir, on ne peut pas toujours en avoir. Ça s'achète très cher aujourd'hui, le désir. Et la passion, elle est partout. Mais elle s'épuise dans les petites choses. Elle a du mal à voyager. Moi aussi.
Vous êtes quand même un acteur de la gestuelle. Vous avez besoin de ça.
Disons que c'est mon premier langage, le mouvement, avant la parole. Avant la parole dramatique. Disons que j'ai commencé par bouger pour le plaisir. D'avoir cette expression, je sais pas, qui m'est spontanée en fait, qui est innée, que j'ai cultivée très tôt, de faire l'excentrique dans la rue, quoi, avant même de penser au théâtre, hein, d'être dans un, si vous voulez, dans un comportement poétique, de pouvoir être capable de marcher sur les mains, de marcher sur un fil, simplement pour trouver des issues dans l'existence. Et ma première forme d'expression, disons, de raconter une histoire, ça a été de la pantomime. Un peu à la manière du mime Marceau. C'est les premières choses que j'ai faites. Et donc, j'ai ça en moi. Ensuite, que j'ai découvert comment le canaliser à travers la parole, à travers des textes écrits. Mais, si vous voulez, spontanément, le texte, il passe d'abord par mon corps avant de devenir langage.
Au début de chaque histoire d'amour, j'ai le même cauchemar. Je vois un cimetière où sont enterrés tous ces hommes, tous ces pères d'orphelines. Ils me parlent avec des voix d'outre-tombe, des voix de vieux films de cinéma. Ils me disent...
Vous ne savez pas aimer ma fille, et jamais, jamais vous ne saurez. Vous ne savez pas lui faire l'amour avec sentiment, ni la rendre heureuse.
Mais ils me disent aussi...
Donnez-moi des nouvelles d'elle, de temps à autre. Dites-moi ce qu'elle devient.
Est-ce que vous allez au cinéma et qu'est-ce que vous pensez de la production actuelle ?
Je peux pas vous en parler vraiment parce que j'y vais pas très régulièrement. Et puis je vais voir souvent des films un peu... qui sont pas forcément à la mode. Il y a quelques... Et puis souvent quand un film me prend... Ça me dure longtemps, quoi. Quand je découvre un film, un réalisateur comme Bellatar, par exemple, le réalisateur hongrois, je pense aux Harmonies Weltmeister, qui est un film qui m'a beaucoup bouleversé. Donc c'est quelque chose qui me reste. Je sais pas quoi en penser. De toute façon, j'ai pas tellement l'impression non plus de faire partie de l'industrie du cinéma français. Et moi, je suis ouvert finalement à, plutôt à, aux gens qui ont besoin de moi. C'est-à-dire, j'ai tourné aussi avec... j'ai presque plus tourné avec des réalisateurs étrangers, même des films qui ne sont pas sortis, ou des premiers films. Je pense à un film qui s'appelle Camping Sauvage, qui est sorti il y a 3 ans, qui a été complètement éclipsé par un autre film qui s'appelle Camping, qui n'a rien à voir.
Je te fais peur, là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de crever, moi?
T'as de gros ennuis?
Un peu. De toute façon, je vais me tirer d'ici.
Où ça?
Je m'en fous. Loin. C'est une drôle de fille.
Je suis Camille et personne d'autre.
Et j'ai tourné avec Harmony Korine, un film que j'aime beaucoup, qui n'a pas été beaucoup remarqué en France.
C'était lequel, du coup ?
Il s'appelle Mr. Lonely, une histoire de sosie. Où ça m'a éclaté, parce que proposer de faire un sosie de Chaplin. C'est une histoire de sosie, quoi. Au départ, c'est sosie de Michael Jackson, qui se retrouve dans une communauté de sosie. Et c'était une très bonne rencontre, quoi. C'est un tournage que j'ai beaucoup aimé.
What do you do? What do you know how to do? Sheep. 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 Shit. Shit. Fuck. Fucking government. Fuck. Fucking government. Fuck. Bullshit. Bullshit. Bullshit.
Harmony Korine, scénariste de Larry Clark, je crois. Hein, c'est ça.
Exact, oui. Qui est un scénariste culte pour certaines personnes. Il a fait Gumeau. Les gens auxquels je parle de Harmony Korine, soit ils sont épatés, ils disent « T'as tourné avec Harmony Korine !» T'as de la chance. Ou soit les gens disent « Avec qui ?» Et c'est soit tout l'un, soit tout l'autre.
Si je veux, je peux te rejoindre chez toi plus tard.
Non, Lise, pas ce soir.
Si, justement.
T'avais promis de pas faire d'histoire. Je comprends pas que tu puisses mentir.
T'es pas amoureux. Un jour, tu comprendras.
Un jour ou deux, peut-être.
On peut parler peut-être juste des films que vous aimez. Alors, vous avez cité quelques réalisateurs. Sinon, qu'est-ce qui vous attire dans le cinéma ?
Par la force des choses, j'ai commencé le cinéma avec Léos Carax. Et donc, ça met la barre très haut. C'est-à-dire, c'est une exigence de travail. C'est une vision, quoi. C'est des gens qui ont des visions, donc c'est forcément des poètes. Et en fait, il y en a peu, autant dans la littérature que dans la peinture, que dans le cinéma. Et c'est ces rencontres-là qui m'importent. Parce que si j'accepte de tourner au cinéma, souvent c'est parce que je fais confiance à l'esprit, à l'œil qui va me regarder. Et c'est ça le plus important. Je sais qu'avec Harmony, avec Léos, avec Claire Denis aussi, il y a cet échange poétique, même s'il n'est pas du tout le même. Il est chaque fois différent, il est particulier. Mais il y a cette intensité de la vie, de vouloir raconter quelque chose qui n'est pas du divertissement, qui est... Oui, qui tient de la fulgurance poétique.
Ça manque. Ça, l'industrie en veut pas. De toute façon, c'est hors industrie.
Ça, c'est par les temps qui courent. À mon avis, ça devient de plus en plus difficile de faire naître des projets comme ça.
T'as l'air heureux ?
Oui ! Je suis bourré d'amour !
La première fois qu'une fille est tombée amoureuse de moi, je me suis dit, ça y est, les filles, les femmes sont amoureuses de moi. Puis cette fille et moi, on s'est quittés. Mais j'ai pas compris quand d'autres filles que j'aimais n'ont pas aimé en retour. Toi, c'est pire. La vie nous jette dans les bras l'un de l'autre et toi, c'est idiot.
Dans les heures au pas du matin, elle espérait ses formes.
tes jolis yeux. Cette nuit, ma petite Lise, ferme tes jolis yeux, car la vie est un songe.
Voilà, c'était plus qu'un petit quart d'heure passé en compagnie de Denis Lavant. En retraçant sa filmographie, c'était une rencontre merveilleuse. Alors j'aurais pu faire plus long, j'aurais pu faire 30 minutes, j'aurais même pu faire une heure et n'en plus finir de passer des extraits et donner envie, eh bien pourquoi pas, aux auditeurs qui ne connaissent pas Denis Lavant de parcourir sa filmo. Denis Lavant qui était encore à Nîmes il y a 3 semaines pour une pièce, Timon d'Athènes, une pièce de Shakespeare remontée avec du slam. Il se lance dans plein de choses, c'est un vrai acteur et aussi parfois un créateur de forme. Voilà, c'est Cinérama et on passe à tout autre chose puisque c'est Pipali, ou autrement appelé en France Les vies privées de Pipali, film de Rebecca Miller. Alors l'histoire de Pipali, c'est celle d'une émancipation tardive, ça commence bien, une envie de liberté chez une femme qui est devenue une épouse modèle, préparant avec soin le gigot d'agneau pour les invités qui aiment sa table parce qu'on y mange bien, parce qu'il y a de l'esprit dans les conversations, pas grand chose qui dépasse avec les maris bavards et les femmes à leur place. Alors l'ouverture du film est un dîner où ça plaisante entre intellectuels avec une moyenne d'âge qui frôle la 60aine. On ne restera pas longtemps sur cette première impression, on ne passera pas son temps à se flatter l'esprit et le ventre. Alors nous sommes dans une banlieue aisée pour retraités, le mari de Pipali, 70 prunes au compteur et 3 infarctus, doit se ranger de son boulot d'éditeur. Pipa, qui semble tout juste avoir la 50aine, est là à ses côtés anticipant ses envies, montrant de l'affection plus que du désir. Cette vie rangée dans cette banlieue tirée à 4 épingles marque le début d'un doute et de comportement qu'elle a peine à saisir. Quelque chose semble se craqueler derrière le vernis d'une vie familiale qui suit son cours, avec un garçon qui aime sa mère et une fille nettement moins. La réalisatrice entame très vite les flashbacks. Qui était cette femme maintenant résignée aux ateliers poterie? On imagine qu'elle a été belle et souriante, puisqu'elle l'est toujours, si ce n'était cette pointe de mélancolie qui fane son visage. Alors, on découvre une naissance insolite, c'est plutôt drôle, une famille nombreuse, un père pasteur, une mère possessive cyclothymique, et peu à peu l'adolescence, la fuite, la découverte de la contre-culture dans les années 70, avec drogue, sexe et rock'n'roll. Une fille paumée ou libre, on ne sait pas très bien, on ne la sent pas plus gaie que maintenant, juste plus aventurière, vivante, et qui, à un moment, choisit de se ranger, de se laisser capturer par un homme plus âgé, peut-être l'envie d'une vie à l'abri des contingences matérielles. Alors le flashback n'est pas figé ni chirurgical, il laisse deviner ce qu'était sa vie avant, et comment elle peut vivre ce moment de sa vie où elle sent que rien ne bougera tant que son mari, auquel elle est dévouée, ne passera pas par son 4e infarctus. Alors c'est sans doute parce que Les vies secrètes de Pipali est d'abord un roman écrit par la réalisatrice Rebecca Miller, la fille d'Arthur Miller, l'écrivain, que le découpage du film est méticuleux sans être plaqué. On pénètre dans la vie de Pipali avec aisance, compréhension, avec humour aussi. Alors on n'échappe pas au portrait de l'Amérique puritaine, des convenances et de la réussite sociale. Et puis on va vers des personnages cyniques, imbus d'eux-mêmes, des névrosés, des exaltés qui viennent compléter le tableau. Et puis il y a l'atterrissage dans cette banlieue pantouflarde d'un personnage intrigant, un type pas bavard, droit dans ses bottes, interprété par Keanu Reeves qui a quitté la matrice pour nous camper un homme brisé, incapable de mentir, ce qui lui rend la vie quand même un peu compliquée. Alors forcément, entre Pipa et cet homme plus jeune, eh bien, va se nouer une relation insolite, il sera le catalyseur d'un nouvel élan. Si le portrait de cette femme, rattrapée par son émancipation passée, semble convenu, il n'empêche que ça tombe juste. Le temps est tantôt léger, tantôt tendu. On n'a pas là la révélation d'un carpe diem béat, ni du pétage de plomb d'un Thelma et Louise. Le voile du roman fait tenir le tout avec une sorte d'happy end, mais ma foi cohérent. Alors c'est du très bel emballage qui convient davantage aux femmes peut-être. Rappelons que c'est une femme qui met en scène une femme, et on peut le penser, le message ira droit aux femmes, celui de l'émancipation. Voilà, donc Les vies privées de Pipali, c'est projeté au Diagonal Capitole, et c'est un film évidemment que je vous recommande. Cinérama continue. On va écouter maintenant une interview de Émilie Loiseau. Alors quel rapport entre Émilie Loiseau et le cinéma? Eh bien vous l'apprendrez, sa grand-mère joue dans un film d'Hitchcock et dans de nombreux films britanniques, et puis elle a aussi participé et bien la bande originale du film King Guillaume. C'était un film avec Florence Foresti. Elle nous explique tout cela puisqu'elle était en concert à Montpellier il y a 15 jours. On écoute et après on se retrouve avec Martin qui viendra nous parler du dernier Terry Gilliam. C'est Cinérama, c'est sur Divergence.
Bonjour, je suis Émilie Loiseau. auteur-compositeur-interprète, on dit. J'écris en français, en anglais, et c'est un genre de chanson folk, un peu baroque, voilà, acoustique, voilà.
Parlons précisément cinéma. Qu'est-ce que c'est votre cinéma, votre univers cinématographique ?
Il y a plein de choses très différentes. Depuis que je suis en tournée, depuis que je sors des 10, c'est seulement le deuxième, donc j'espère que je vais trouver une solution. Je dois dire que j'y vais beaucoup moins parce que franchement, je trouve pas le temps et quand je rentre à la maison, j'ai envie de dormir. Donc ça, c'est un peu ma grosse frustration, que ce soit par rapport au cinéma ou au théâtre. Une fois que j'ai dit ça, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont fondée. Il y a les films dans lesquels jouait ma grand-mère, qui sont des films peu connus parce que c'était une comédienne de théâtre anglais et qu'à part La Route des Indes de David Lean et Les 39 Marches de Hitchcock, elle n'a pas fait des films qui étaient hyper connus. C'était plutôt des films anglais, le cinéma anglais à l'époque qui n'était pas très, très à la mode. Donc il y a Caught on a Train, She's Been Away, des films comme ça qui sont à peine sortis en France, mais qui ont été des films voilà, qui ont fait partie de... des choses qui m'ont marqué, parce que forcément, voir sa grand-mère dans un film quand on est gamin, c'est bizarre, et puis c'est émouvant en même temps.
Well, here we are. Well,
come home with you.
What's the idea?
Well, I like to.
It's your funeral. Come on, then there's a bus.
Il y a plein d'autres choses. Je suis une grande fan du cinéma de Jarmusch, par exemple.
That weapon will replace your tongue. You will learn to speak through it. And your poetry will now be written with blood.
You William Blake?
Do you know my poetry?
Les enfants du paradis.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Il y a tous les films aussi de Tim Burton, qui font partie de cet aspect lié à la fois à l'enfance, à l'âge adulte et au macabre, qui sont clairement des choses qui me touchent.
Et si Victor est mort, on ne se plaisait pas.
Oh, comme si c'était nécessaire pour se marier.
Quoi d'autre, des films beaucoup plus français, comme Truffaut. Je suis aussi très, très transportée quand je vois tous ces films des années... entre les années 50 et les années... Et la fin des années 70 du cinéma français, parce que, bon, les années 50, c'était pas mon enfance, hein, mais les années 70, oui, et tout ce qu'il y a avant, et l'âge d'or de Gabin, de Mastroianni, tout ça, ce sont des choses qui me parlent. J'aime beaucoup voir la France et les comédiens français de cette époque-là. Il y a quelque chose qui me ramène à je sais pas, à des valeurs premières, peut-être, que mes parents m'ont transmis. J'oublie plein de choses.
Donc si vous deviez choisir un film, ce serait peut-être celui avec votre grand-mère, enfin un de ceux tournés avec votre grand-mère, parce que ça vous procure plus d'émotions, ou alors il y en aurait un autre ?
Ouais, c'est un film, c'est... Un film, c'est dur. Tout de suite est venu, mais m'est passé dans la tête le film Gandhi, et que j'ai trouvé... incroyable, et plus je le vois, plus je le trouve incroyable, en fait, et d'une richesse.
La non-coopération a un objectif, le renversement du gouvernement. La sédition, pour nous, est une arme et un credo. Nous ne devons faire aucun quartier et n'en attendre aucun. Niez-vous avoir écrit ceci ?
Pas le moins du monde. Et je vais vous faire gagner du temps, monsieur le président, en déclarant ici sous serment que pour moi la non-coopération avec le mal est un devoir et l'administration britannique est un mal.
La partie civile n'a rien à ajouter, monsieur le président.
On peut rester sur celui-ci.
Il y en a d'autres, ouais, mais je pense qu'il y en aurait beaucoup d'autres et que c'est pas forcément le seul.
Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant.
Bien, on pourrait peut-être parler de votre travail donc en tant que compositrice sur une bande originale de film. Tout le monde ne le fait pas. Alors c'était quoi le défi sur cette bande originale et comment ça s'est passé ?
Le défi fondamental, c'était d'une part que c'était la première fois que je faisais ça, et deuxièmement que ça arrivait au moment du deuxième album. Donc c'était un peu deux défis énormes. Et puis c'était de ne pas être inconséquent, de pas gâcher le rêve d'un autre. Voilà, et d'arriver même au-delà de ne pas le gâcher, à même le porter, quoi, à ma petite manière toute humble. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que Pef est quelqu'un... D'une part, notre rencontre s'est passée de manière assez amicale parce qu'il a entendu parler de moi par sa fille qui connaissait bien une amie très proche de moi. Et voilà, il est un peu tombé amoureux de ma musique. Et même s'il me demandait à peu près tout sauf ma musique, vraiment, sur cette BO, parce que c'était quelque chose de très riche, de touchant aux Beatles, à Tom Jones et à la musique médiévale un peu. Donc c'était un espèce de grand écart total. Il a été extrêmement présent et très précis dans ses demandes, même si parfois il changeait d'avis. Il y avait toujours des propositions de sa part, une grande confiance et surtout une grande importance donnée à la musique. Et ça, je crois que c'est génial quand tu fais ça pour la première fois, d'avoir quelqu'un qui donne autant d'importance à ça. Ça m'a emmené ailleurs.
À l'autre bout du monde.
Parce qu'effectivement, il s'agit de servir le rêve de quelqu'un d'autre. Donc il s'agit de se déplacer un peu en soi-même vers des contrées où on ne serait pas forcément allé. Si l'autre, vous n'avez pas sorti de votre truc à vous et vous n'avez pas mis là, voilà, sur une île, Guerlande.
Je vous annonce que vous héritez du titre de roi de l'île de Guerlande.
Roi, comme dans les magazines. Avec le donjon, le pont-levis,
Paris.
Excusez-moi mon brave, le prochain départ pour Guerlande, je vous prie.
Guerlande ?
La prochaine navette, c'est ?
La navette.
Ah d'accord, donc on ne fait pas de phrase en Bretagne.
Du coup, vous aviez vu les images qui avaient été tournées, ou ça s'est passé avant
Les deux, une partie a été composée d'abord avant le tournage parce qu'il fallait que ce soit chanté live. Je pense à Fais battre ton tambour, qui est une chanson que je chante sur mon album et que Sandra Nkake chante dans une église pendant le film. Donc ça, il fallait que ce soit prêt. Il y avait un autre petit morceau que les Iliens de Guerlande chantaient très faux mais magnifiquement sur une barque, et ça aussi, il fallait que ce soit prêt. Et puis ensuite le reste, effectivement, moi j'ai continué de composer avec le scénario, avec ce que me disait Pef, et puis j'ai attendu ensuite les images pour voir si ces morceaux que j'avais écrits étaient valides ou non, pour les retailler dans les bonnes dimensions temporelles et réécrire parfois. Enfin, donc ça a été un mélange des deux.
Et vous n'avez pas eu à réécrire, parce qu'on a déjà entendu ça, hein, des compositeurs pas satisfaits ou le réalisateur pas satisfait. Enfin, il y a forcément une relation.
Si, il y a eu ça. J'ai eu beaucoup de chance. Pef ne cessait de me dire, dis donc, tu te rends pas compte, hein, mais franchement, tout le monde est tout le temps content et tout. Bon, moi, j'étais tellement, je me mettais tellement la barre là, quoi, hyper haut, que j'avais toujours peur. De pas être à la hauteur et tout. Du coup, j'ai vraiment donné beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Heureusement que Pef était là pour me dire, non, mais tu sais, là, c'est cool quand même ce qui se passe. Il y a eu un truc, par exemple, sur une scène qui a pas été mis. Je continue de penser qu'il s'est trompé. Mais voilà, il a préféré la musique de référence. C'est au moment des urgences. Il a préféré son truc de référence, ce que je respecte carrément. Moi, j'avais proposé autre chose qui était très inspirée de ça. Mais voilà, et ça, dans ces moments-là, t'as rien à dire parce que c'est toi, ta perspective du film qui est en plus non pas erronée mais forcément très différente que de la sienne qui est à l'intérieur et qui sait exactement ce qu'il veut faire ressentir à ce moment-là du film et qui a ses impératifs intérieurs. Donc tu peux rien dire, tu peux te battre un peu, tu peux dire oh, je suis pas d'accord, nanana, mais ça, au bout du compte, faut savoir tout de suite que ça sert à rien, quoi. Puis c'est pas une histoire d'ego là pour le coup. Il y a eu peu de ça en fait, hein. Il y a eu des petites choses à retoucher, des trucs qui, où moi j'étais contente et puis il me disait ouais non ça va encore pas, et puis tu le retravailles, et c'est à la fois bizarre parce que quand tu fais ton disque toi-même, tu réalises le disque, t'écris, tu composes, tu coécris les arrangements, tu le réalises, tu te dis t'étais seul, quoi, t'as tes musiciens mais quelque part t'es le chef du bateau, et là d'un seul coup on te demande des comptes, toi t'es content d'un truc et c'est plus tout à fait exactement ce qui est attendu. Donc c'est un peu déstabilisant au début et vite, finalement, je trouve que ça recadre un peu les choses et ça fait du bien.
Je
King Guillaume, hein, dont elle a fait la BO, mais qui est un film qu'on n'a pas chroniqué dans Cinérama. Alors, rappelons eh bien, que Émilie Loiseau a remporté, il y a moins d'une semaine, le prix Constantin. Elle était entourée de Aurel San, Dominika Birdinamnam, et c'est elle qui a remporté donc ce prix qui finalement récompense le meilleur jeune talent de l'année. Voilà, elle en est quand même à son deuxième album, et son deuxième album justement s'intitule bien Pays Sauvage. Vous avez pu en écouter des extraits pendant ce petit montage. On passe maintenant eh bien, à la dernière chronique de cette émission Cinérama, c'est le dernier Terry Gilliam Martin.
Alors un nouveau film de Terry Gilliam, c'est toujours une bonne nouvelle pour moi, même si l'ancien Monty Python a ramé pendant un bon moment après le naufrage de L'homme qui tua Don Quichotte, dont le tournage avait été annulé en 2000. Eh bien, il nous avait quand même proposé en 2005 Tideland, qui renouait après le ratage des frères Grimm la même année, avec un certain style, une certaine Gilliam's touch qui nous avait bien manqué depuis Las Vegas Parano, en 1999. Donc mercredi dernier est sorti en salle l'Imaginarium du docteur Parnassus avec Heath Ledger, Christopher Plummer, Tom Waits et Lily Cole entre autres. Donc avec l'Imaginarium, le réalisateur revient une nouvelle fois à explorer les thèmes qu'il a développés tout au long de sa filmographie, donc l'imaginaire, le théâtre, le fantastique et une certaine fascination pour les personnages marginaux qui sont à la limite de la folie. Donc Gilliam nous raconte l'histoire du docteur Parnassus, un homme qui a joué avec le diable et qui s'est fait prendre au jeu du corps nu. En échange d'une seconde jeunesse, le docteur a signé un pacte qu'il regrette amèrement aujourd'hui. Et bon, il vivote tant bien que mal dans un théâtre roulotte en parcourant Londres pour présenter son spectacle. Un spectacle qui est une véritable plongée à travers le miroir dans l'imagination de tout un chacun. Donc jusqu'au jour fatidique où le diable vient réclamer son dû. Donc un nouveau pari est lancé entre les deux hommes et commence alors une course contre la montre pour tenter de sauver Valentina, la jeune fille de Parnassus, des griffes du malin. Alors l'Imaginarium, c'est un peu le remake moderne des aventures du baron de Munchausen, ou au choix le Big Fish de Terry Gilliam. Donc à l'instar de Tim Burton, qui mettait en scène un homme qui avait passé sa vie à inventer des histoires plus folles les unes que les autres, pour faire paraître sa vie plus belle et aventureuse qu'elle n'avait été, eh bien le Parnassus de Gilliam peut lui aussi être considéré comme une métaphore du propre rôle de raconteur d'histoire du réalisateur. Donc, comme dans son Munchausen, sorti il y a plus de 20 ans, Gilliam utilise comme point de départ pour son histoire un théâtre à l'intérieur duquel la réalité va se mettre à glisser, à dériver et finalement à se confondre avec l'imaginaire. Comme à son habitude, Terry Gilliam laisse libre cours à sa fantaisie baroque et à son amour de la magie, mais il les oppose cette fois de façon assez frontale avec le monde contemporain. Donc il inverse le procédé qu'il mettait en place dans Fisher King ou dans Tideland, et il va confronter un monde antique peuplé de dieux, de démons, de figures mythiques, au monde des boîtes de nuit, des jeux vidéo et du capitalisme outrancier moderne. Donc à l'exception de Tony, tous les personnages semblent sortis directement d'une tragédie antique, et c'est dans leur confrontation avec l'imaginaire que leur nature profonde se révèle véritablement. Donc l'homme moderne apparaît comme un être à plusieurs visages, insatiable, et souvent incapable de faire la part entre le réel et la fiction, le mensonge et la vérité. Donc c'est le deuxième et dernier film posthume de Heath Ledger, et l'imaginarium du docteur Parnassus a manifestement souffert de la disparition du jeune comédien. Mais bon, le scénario qui ne ménage pas vraiment les images mortifères, comme cette première apparition du personnage de Tony pendu sous un pont londonien, eh bien, le scénario se retrouve également auréolé d'un certain mystère et de plusieurs niveaux de lecture qui viennent faire de ce film une œuvre testament assez étonnante. Donc le remplacement de Heath Ledger par trois autres comédiens lorsque son personnage passe de l'autre côté du miroir et que son imaginaire est matérialisé par les pouvoirs de Parnassus, eh bien ce remplacement là, c'est une trouvaille narrative qui dépasse un peu sa fonction première de solution de secours et qui apporte une dimension supplémentaire à la narration et aux thématiques qui forment le cœur du film. Alors une nouveauté en ce qui concerne le réalisateur, c'est la profusion d'images de synthèse qu'il a utilisées pour donner vie à son univers de fantasmagorie visuelle. Donc encore une fois, on a parfois l'impression, face à certaines séquences, d'être devant un film de Tim Burton, période Charlie et la chocolaterie. Mais bon, Gilliam évite quand même à chaque fois de sombrer dans la surenchère. Et il nous propose des visions qui sont quand même plus digestes que celles de Burton. Alors l'utilisation de ces images de synthèse ne vient jamais prendre le pas sur l'imagination du réalisateur et on retrouve la plupart du temps cette patte Gilliam, cet amour de l'animation traditionnelle en papier découpé et des effets spéciaux à l'ancienne qu'il utilisait par exemple chez les Monty Python. Et donc voilà, on retrouve cette patte même dans les scènes filmées sur fond vert. Donc au final, l'Imaginarium, c'est à mon avis un très bon film. Mais c'est un film imparfait, un film malade, et ce pour plusieurs raisons. Donc déjà, il y a la mort du comédien principal qui a poussé Gilliam à réécrire une partie du scénario, à chercher des solutions pour remplacer son personnage par des doublures. Et ça a transformé de façon assez radicale la perception qu'on a de ce personnage et de son évolution. Donc en faisant appel à des doublures particulièrement prestigieuses, hein, Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell sont quand même des stars hollywoodiennes avec une dimension qui est plus internationale que ne l'était Heath Ledger, eh bien, avec ses doublures, le sens de l'histoire elle-même et sa compréhension par les spectateurs s'en trouvent perturbés. Donc, encore une fois, c'est difficile de ne pas voir à l'écran les stars plutôt que le personnage. Et alors que le reste du film cherche à nous plonger dans l'imaginaire, eh bien, ce procédé, alors aussi cohérent et réussi soit-il, eh bien, il a tendance à nous faire prendre du recul par rapport au récit. On se retrouve à admirer un petit peu les performances des comédiens plutôt que de s'abandonner à l'histoire complètement. Donc ensuite, il y a cette histoire qui, elle aussi, s'avère légèrement confuse. En particulier lors du dénouement, il y a certaines pistes qui sont amorcées au cours du film et qui restent inexplorées, d'autres qui se terminent de façon un peu abrupte. Alors c'était déjà un peu le cas avec les aventures du baron de Munchausen, mais bon, l'Imaginarium se veut surtout être un gros trip visuel, psychédélique et baroque, ainsi qu'une réflexion sur la représentation cinématographique et sur la narration en général, ce qu'il réussit parfaitement à être dans un cas comme dans l'autre. Mais bon, il y a ce scénario qui en pâtit un petit peu de ce choix thématique et esthétique, en fait, font que les personnages principaux, à l'exception du Diable et de Parnassus, qui sont superbement interprétés par Tom Waits et Christopher Plummer, eh bien, les personnages principaux n'arrivent pas totalement à nous apprivoiser. Alors si on est séduit par l'originalité des visions de Gilliam, par la débauche de merveilles qu'il nous met devant les yeux, c'est un peu plus difficile d'adhérer aux émotions et au cheminement personnel des personnages. Donc Lily Cole, par exemple, avec son visage de poupée et son corps de danseuse de cabaret, campe une Alice au Pays des Merveilles un peu trop lisse, un peu trop fragile pour être vraiment attachante. Le personnage de Tony donc, est divisé en quatre facettes différentes qui, eh bien, malgré leur cohérence globale, composent au final un être artificiel qui a la psychologie difficilement appréhendable. Et enfin, les personnages de Percy et d'Anton sont plus ou moins relégués au rang de faire-valoir sentimentaux ou comiques. Donc voilà, dans l'ensemble, les protagonistes ne sont pas particulièrement attachants malgré leurs autres qualités. Voilà, ils sont très bien campés par les comédiens. Mais bon, il y a peut-être ce rapport émotionnel avec le spectateur qui manque, une certaine identification qui ne fonctionne pas. Mais bon, qu'on ne se fourvoie pas sur mon opinion, hein, malgré ces quelques petits défauts que j'ai pointés, je recommande chaudement ce nouveau Terry Gilliam qui s'avère être un très beau voyage dans l'imaginaire d'un réalisateur dont les talents de poète et de montreur d'images ne sont plus à démontrer. Bon, reste qu'on aimerait bien que Gilliam puisse enfin refaire un film en ayant le contrôle absolu sur son œuvre, sans qu'un typhon emporte la moitié de ses décors, sans que ses comédiens ne se fassent une hernie discale ou meurent devant la caméra, et sans que les studios hollywoodiens viennent fourrer leur sale nez dans ses histoires.
Eh bien, merci Martin. Oui, enfin voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, tu l'as dit, film baroque, très fantaisiste, avec un imaginaire débordant, les effets spéciaux. En fait, pour moi, Gilliam, ce que j'aime bien chez Gilliam, c'est qu'il peut faire des effets spéciaux qui finalement ne sont pas marqués dans le temps. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est la pointe des effets spéciaux de notre époque, ce qui fait qu'ils sont déjà un peu dépassés. C'est toujours c'est toujours l'impression que j'ai. Et c'était pour le cas de Brésil aussi. Enfin, c'était un peu cheap hein, quand même comme effets spéciaux.
Oui, c'est vrai. Et ça permet en même temps au film de pas vraiment vieillir, d'être ancré dans une contemporanéité de technique des effets spéciaux. C'est vrai qu'il y a ce côté, il utilise l'image de synthèse, mais il l'utilise finalement comme il aurait pu utiliser du carton-pâte ou des incrustations sur verre.
Et d'ailleurs, il fait les deux, hein, carton-pâte. Oui.
D'ailleurs, il mélange beaucoup de techniques d'effets spéciaux. Mais c'est vrai que là, il y a quand même, on sent clairement cette utilisation des images de synthèse qui a permis à son imaginaire de se débrider complètement et peut-être de produire des images qu'il n'aurait pas eu les moyens de produire autrement. Voilà, donc non, c'est, visuellement, c'est très beau, c'est très original, très poétique. Moi, il y a ce petit, peut-être ce petit défaut là que je verrais avec un scénario et des personnages qui restent un petit peu distants. Enfin voilà, on reste en retrait par rapport aux personnages. Mais bon, voilà.
Mais moi, l'histoire n'est pas facile non plus.
Enfin, voilà, l'histoire est assez compliquée, ça joue sur plusieurs niveaux de réalité. Mais bon, c'est un film que je recommande chaudement.
Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Enfin, quand on voit Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell, effectivement, on regarde comment ils jouent. Voilà, parce que c'est quand même étonnant de les voir apparaître à la place du regretté acteur disparu.
Oui, bah, et c'est vrai que leurs visages, surtout, sont plus connus. On est plus habitué à leurs visages, et c'est vrai que c'est plus difficile de voir le personnage à ce moment-là. On voit plutôt Johnny Depp fait son show, Jude Law fait son show, Colin Farrell fait son show. Après, ils sont tous les trois très bien dans ce qu'ils font, et même la substitution marche bien d'un point de vue de l'histoire, c'est assez pertinent. Donc voilà.
Et Tom Waits aussi, hein, on précise.
Tom Waits excellent. Encore méconnaissable. Moi, je savais qu'il jouait dedans, j'avais oublié en m'asseyant dans la salle, et je l'ai pas reconnu pendant tout le film. Donc il s'est fait une tête, et puis il campe ce diable vraiment très très bien. Ouais.
Donc c'est projeté par contre bien un peu partout. Par contre la VO sous-titrée, me semble-t-il, ce sera au Diago.
C'est au Diago, allez le voir en VO sous-titrée bien sûr.
L'Imaginarium du Docteur Parnassus.
Tout à fait.
Ainsi s'achève Cinérama, un cinérama un peu spécial. Martin, tes impressions ?
Ben voilà, un cinérama très guillamesque, finalement, rafistolé. Je suis là, mais je ne suis pas là.
Je suis
coincé dans l'imaginarium.
Ouais. Et le plus extraordinaire, c'est que là, je suis là, mais je serai aussi là quand on m'entendra me dire que je ne suis pas là ou là.
Ouais, il faudrait faire une émission spéciale sur le voyage dans le temps et l'ubiquité. Ouais, ça,
introspection de cinérama. En tout cas, on vous a recommandé tous les films qu'on a proposés, on vous les recommande. Donc c'est une belle semaine de cinéma.
Enthousiaste, ouais. Eh bien, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, et on va écouter à la fin du générique Bernie de Dupontel, puisque Albert Dupontel nous fait enfin l'honneur de nous proposer son dernier film, Le Vilain, qui sortira donc la semaine prochaine et que j'ai pu voir en avant-première. Et c'est un très bon Dupontel. On en parle la semaine prochaine. Au revoir.
Alors d'après vous, c'est mes parents qui m'ont rejeté dans le vide d'ordure.
Vous savez, vos parents se détestaient, c'est vous qui avez trinqué, c'est classique.
Des milliardaires américains qui disparaissent en abandonnant leur enfant, t'as pas trouvé ça bizarre, toi, hein ?
Quoi ?
Et les enlèvements, ça n'existe pas, les enlèvements ?
Cinérama, sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14. Non,
le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.